France Culture.
Bonjour à toutes et à tous. En Roumanie, l'extrême droite va-t-elle prendre le pouvoir après un scrutin annulé en novembre sur fond de soupçons d'ingérence russe? Le peuple roumain vote à nouveau aujourd'hui. Nous serons à Bucarest dans un instant. Donald Trump en tenue de pape, c'est une image qui fait le tour des réseaux sociaux ce week-end. Preuve que les États-Unis suivront de près l'élection du nouveau souverain pontife, quitte à influencer le prochain conclave. En France, le Premier ministre suggère un référendum pour réduire la dette. François Bayrou veut consulter l'ensemble de la population avant de lancer des mesures d'ampleur, un moyen de détourner l'attention pour une partie de l'opposition. Après l'annulation des élections en novembre, 19 millions de Roumains votent à nouveau aujourd'hui. Les autorités soupçonnaient une ingérence russe dans le précédent scrutin qui donnait vainqueur le candidat d'extrême droite Calin Georgescu. Il est désormais exclu de l'élection. Mais à la tête des sondages, c'est George Simion, un autre candidat d'extrême droite. On vous retrouve Virginie Pironon en direct de Bucarest. Bonjour Virginie. Alors vous vous êtes rendue ce matin dans le bureau de vote de Calin Georgescu où George Simion l'a rejoint pour voter, un geste très symbolique.
Oui, au milieu d'une nuée de caméras, Calin Georgescu a brièvement pris la parole pour dénoncer l'annulation du scrutin de novembre dernier.
Je ne suis pas ici pour valider cette fraude électorale. La Roumanie s'est réveillée. Il est temps de reprendre notre pays et le libérer des scélérats.
À ses côtés, celui qui espère bien s'attirer les faveurs de l'électorat de Georgescu, George Simion, qui affirme plaider pour un retour, dit-il, à l'ordre constitutionnel.
Nous sommes ici avec une seule volonté, rendre justice à la Roumanie.
Écharpe aux couleurs de la Roumanie, Marius est colonel à la retraite et il a voté, c'est une évidence, dit-il, pour George Simion.
Nous sommes Roumains, nous sommes pour Calin. Nous espérons de tout cœur que ces élections ne seront pas dénaturées et que la démocratie l'emportera en Roumanie aussi.
Longue barbe rousse, chapeau traditionnel, Gabriel, 33 ans, se dit reconnaissant envers les deux candidats pour lui avoir rendu une certaine fierté d'être Roumain.
Quand on aime son pays, on apprend à aimer les autres. Si je m'aime moi-même, comment je pourrais vous vouloir du mal? Je veux que la France prospère, comme la Hongrie, la Pologne, la Serbie. C'est ça être un nationaliste.
Une élection qui divise le pays en deux camps, avec de l'autre côté les démocrates très inquiets, ce qui explique la très forte participation. À la mi-journée, près de 20% des électeurs ont déjà glissé un bulletin dans l'urne.
Merci Virginie Pierronneau en direct de Bucarest pour France Culture avec les moyens techniques de Romain Liquiens. Et pour continuer à parler de la présidentielle roumaine plus en profondeur, on est également avec Sergiu Mișcoiu. Bonjour à vous Sergiu.
Bonjour.
Alors Sergiu Mișcoiu, vous êtes professeur des universités à la faculté d'études européennes de Cluj en Roumanie. On parlait de l'impact d'une potentielle ingérence russe lors des élections de novembre. Comment les autorités ont-elles essayé d'endiguer ce phénomène? Est-ce que cette ingérence a entravé les élections aujourd'hui?
Bah écoutez, depuis les élections annulées de novembre, les autorités roumaines ont été beaucoup plus vigilantes qu'en 2024 et ont essayé de mettre en place une série de mesures à la fois de surveillance et d'intervention pour limiter la possibilité des différents trolls, des différents bots, des différents types d'outils informatiques et de programmes d'intervenir de telle manière que les individus soient informés en masse d'une manière permanente et biaisée dans une seule direction allant vers le vote favorable à l'extrême droite. Les mesures qui ont été prises jusqu'à présent ont été des mesures partiellement efficaces si on voit un peu les rapports qui existent, mais finalement ces mesures n'ont pas pu concerner que ce qui se passe à l'intérieur de la Roumanie. C'est-à-dire que ces mesures ont été tournées contre les influenceurs roumains. Une partie d'entre eux ont été même mis en examen pour des différents types de recel de biens et d'argent sans déclaration préalable. Mais pour ce qui est des réseaux d'influence situés à l'étranger, notamment dans des paradis informatiques qui ont ces fermes de trolls qui influencent sur les réseaux sociaux, les autorités roumaines sont quasiment impuissantes.
Et comment a évolué l'électorat en 6 mois entre la première élection et aujourd'hui ?
L'annulation du premier tour de 2024 a radicalisé une partie de l'électorat roumain, notamment ceux qui ont voté avec M. Georgescu et M. Simion. Ils ont protesté contre, entre autres, la prolongation du mandat de M. Klaus Iohannis, le président sortant, qui a fini par démissionner. Ils ont protesté aussi contre le fait que M. Georgescu n'a pas été retenu comme candidat par le bureau électoral central, justement parce que contre lui, il y a plusieurs enquêtes pour malversation financière et aussi tentative de sédition en 2024. Tout cela a profité à George Simion, qui est le leader plus classique de l'extrême droite, celui qui s'est fait surplomber en 2024 par M. Georgescu, plus radical, plus extrémiste, plus millénariste même, mais qui, pour ces élections de mai 2025, a pu faire une sorte de synthèse en se disant, comme on l'a entendu dans votre reportage, solidaire avec M. Georgescu, le président légitime selon lui, mais en se sacrifiant, en portant le drapeau, le flambeau pour ces élections. Et de cette manière, il réussit l'exploit de se positionner comme une sorte de creuset entre ces deux extrêmes droites, l'une plus institutionnalisée, l'autre plus radicale. Ce qui montre pourquoi M. Simion caracole en tête des sondages autour de 30%, probablement le score qu'il aura aujourd'hui.
Alors, on vient de le dire, George Simion est en tête des sondages pour l'instant, pour le premier tour, mais vous estimez que rien n'est joué, il peut encore y avoir un cordon sanitaire qui se crée au second tour ?
Il est très probable que cela se produise. L'autre face de la monnaie du succès au premier tour très probable de M. Simion est que les réserves de voix pour le second tour ne sont pas très très importantes. Il y a par contre un candidat qui monte, l'ancien Premier ministre Victor Ponta, qui lui se situe dans une logique mi-souverainiste, mi-traditionaliste, mais avec quelques inflexions de modernité, puisqu'il a été Premier ministre du Parti social-démocrate quand même au milieu des années 2010. Il est devenu dans cette campagne le Trump de Roumanie et il pourra en partie reporter ses voix sur M. Simion. Mais sinon, les autres candidats pro-européens, Scrin Antonescu, le candidat de la coalition majoritaire au pouvoir, et Nicu Șordan, notamment le maire de Bucarest, avec d'autres candidats plus insignifiants du point de vue électoral, pourront joindre ses forces autour de celui qui sera qualifié au second tour pour faire barrage à l'extrême droite.
Eh bien, merci beaucoup Sergio Miscoglio d'avoir répondu à ces questions. Je remercie également Aloïs Guérin pour la préparation de cet entretien. Le deuxième tour de la présidentielle roumaine est prévu dans 2 semaines, dimanche 18 mai. C'est l'une des images fortes de ce week-end, Donald Trump en tenue de pape. Une photo sans doute générée par intelligence artificielle et publiée sur le réseau social du président américain, Truth. Tout cela à quelques jours seulement du conclave qui débutera mercredi. Preuve de plus que les États-Unis prêtent un intérêt tout particulier au successeur du pape François. Et certains conservateurs américains tentent même d'orienter l'élection, notamment au travers d'un site internet, Bruno Duvic.
C'est un site très bien fait qui recense les cardinaux. Derrière College of Cardinals Report, il y a notamment une maison d'édition conservatrice américaine. Dans les portraits, on insiste d'abord sur les positions des prélats à propos des unions homosexuelles ou de la messe en latin. De quoi influencer les cardinaux eux-mêmes ? Christopher White, correspondant au Vatican du National Catholic Reporter.
Ce conclave est une première pour 80% des participants. Ils vont chercher des informations à propos des autres cardinaux. Parmi les ressources, il y a un site comme celui-ci qui leur donnera des réponses, mais de manière biaisée.
Dans une église américaine qui a vu les dons décliner après les affaires d'abus, le courant conservateur a pour lui la richesse. Les fidèles américains fournissent un tiers des dons au Vatican. Mais les cardinaux électeurs des USA sont divisés entre pro et anti-François. L'un des 10 peut-il être élu à Rome ?
L'idée générale, c'est que les États-Unis ont déjà beaucoup trop trop de pouvoir, mais cela pourrait être un peu différent lors de ce conclave. Pour certains cardinaux, un bon Américain qui s'opposerait à Trump depuis l'Europe peut être attirant.
De ce point de vue, le nom qui revient le plus souvent est celui de Mgr Prévost.
Bruno Duvic à Rome pour Radio France. Montée des tensions entre Israël et le Yémen. Ce matin, un missile est tombé sur l'aéroport international de Tel Aviv, attaque revendiquée par les Houthis yéménites. Le trafic a été brièvement interrompu et Israël menace de frapper 7 fois plus fort. Les Houthis, soutenus par l'Iran, ennemi juré de l'État hébreu, avaient déjà revendiqué des tirs il y a 2 jours en solidarité avec Gaza, des tirs que l'armée israélienne affirme avoir interceptés. Face à l'ampleur des déficits budgétaires, pourquoi ne pas demander leur avis aux Français sur les solutions à apporter ? François Bayrou évoque aujourd'hui un référendum dans les colonnes du journal du dimanche. Référendum sur un plan d'ensemble pour équilibrer le budget français qui, je cite, « demandera des efforts à tout le monde ». Car aujourd'hui, le Premier ministre se trouve face à des blocages politiques faute de majorité à l'Assemblée nationale. Bonjour Nicolas Ballu.
Bonjour.
Alors pour l'instant, cette idée d'un référendum ne semble pas vraiment accueillie avec enthousiasme.
Bah oui, c'est-à-dire que pour le moment, il s'agit d'une idée, une hypothèse formulée par le Premier ministre. Hypothèse, c'est le mot très prudent employé par l'Élysée hier soir. François Bayrou l'a rappelé dans son interview, c'est le président de la République qui déclenche un référendum. C'est donc l'exécutif dans son ensemble qui l'endosse. Un exécutif aujourd'hui particulièrement impopulaire. Et un référendum se transforme souvent, et même plus souvent, en désaveu général qu'en plébiscite. Il affaiblirait donc encore un peu plus le chef de l'État et son Premier ministre. L'hypothèse du référendum aurait théoriquement un avantage pour François Bayrou, celle de résoudre son problème de majorité à l'Assemblée, de contourner le blocage et d'échapper à une censure, mais aussi de faire légitimer des mesures à l'heure où les prévisions de croissance pour 2025 mettent en péril le budget déjà voté pour cette année, à l'heure aussi où le Premier ministre estime qu'il faut trouver 40 milliards d'euros d'économies l'an prochain pour respecter les objectifs de réduction du déficit public. Cela passera par des baisses de dépenses que le Premier ministre qualifie de déterminées et par une meilleure efficacité de l'État, deux étendards régulièrement brandis par tout gouvernement de droite. La question est assez grave, dit-il, assez lourde de conséquences pour l'avenir de la nation, pour qu'elle s'adresse directement aux citoyens. Fin de citation. Résumé, la défiance est telle que la potion amère qu'il faudra boire doit être avalisée par le peuple lui-même. Ce référendum n'aura jamais lieu, c'est un effet d'annonce, un artifice, estime le député LFI Éric Coquerel, l'une des très rares voix à réagir en ce pont du 1er mai. Autre signe que pour le moment, cette hypothèse de référendum ne fait pas encore bouger les foules politiques.
Merci pour ces précisions, Nicolas Baluche. Le problème des déserts médicaux remis sur la table ce matin dans un texte publié par la Tribune dimanche. 1510 élus locaux appellent le Parlement à réguler l'installation des médecins via la proposition de loi du député socialiste Guillaume Garot. Bientôt examiné par le Sénat, ce projet de loi provoque la fronde des médecins libéraux car il les oblige, entre autres, à attendre la retraite pour s'installer dans des zones mieux dotées en services médicaux. Une mesure toutefois nécessaire, selon Stéphane Troussel, président PS du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Il a signé la Tribune.
La désertification médicale, c'est un fléau. Elle touche désormais plus de 8 millions de Français. Elle s'aggrave et ça a de graves conséquences sur la prise en charge des patients, sur la prévalence des cancers, sur les maladies chroniques, sur l'engorgement des hôpitaux.
Le gouvernement a présenté son propre plan de lutte contre les déserts médicaux et donc le Premier ministre François Bayrou souhaite imposer un médecin 2 jours par mois de consultation dans des zones prioritaires. Et vous dites clairement que c'est un suffisant.
Ça ne sera pas efficace et ça laisse penser finalement que dans les zones carencées, en Seine-Saint-Denis, dans la Creuse ou dans la Somme, on serait des secondes zones où, comme ça, il y aurait 1 ou 2 jours obligatoires. Mais ce n'est pas de ça dont il s'agit. D'autant plus que pourquoi il y a insuffisance et désertification médicale, en particulier dans des territoires comme les nôtres? Eh bien, c'est parce que souvent, il y a des populations avec moins de moyens, mais avec plus de besoins. Je pense par exemple aux personnes qui cumulent à la fois des difficultés sociales et des difficultés de santé, comme dans un territoire comme la Seine-Saint-Denis, à des personnes âgées en Seine-Saint-Denis qui ont moins de ressources et qui ont eu souvent des vies personnelles ou professionnelles plus difficiles et donc avec plus de besoins de santé, avec des maladies qui arrivent plus précocement. Et donc, c'est là où il faut qu'il y ait davantage de médecins. Oui, il faut absolument réguler l'installation.
Stéphane Troussel qui répondait à Mercia Nevitch. Nous sommes loin d'une semaine noire. Le PDG de SNCF Voyageurs se veut rassurant alors que les syndicats du rail prévoient une grève pour le pont du 8 mai, mouvement qui devait commencer dès demain lundi. Mais selon Christophe Fanichet, la circulation sera normale sur les lignes ferroviaires du lundi 5 au jeudi 8 mai. La plupart des trains circuleront aussi le reste de la semaine. La météo, il pleut cet après-midi sur une large partie du pays avec des orages sur la moitié sud. Seul le nord-ouest bénéficie d'un peu de soleil. Il fait 13 degrés à Belfort, 17 à Clermont-Ferrand et Nantes. Merci à Emle Chili et à Dalia pour la réalisation de ce journal.